DW. Pulsation.
La France-Afrique pour les nuls. Cela pourrait être le sous-titre de son livre, paru en auto-édition au début de l'année et intitulé « Mafia Africa » et écrit en allemand. Faire connaître les effets, selon lui, néfastes du colonialisme jusqu'aujourd'hui dans les pays d'Afrique francophone, c'est l'objectif du docteur Théodore Vissienon. Or, et c'est étonnant, ce Béninois n'est pas historien, mais vétérinaire à Leipzig, la capitale de la Saxe en Allemagne. En fin d'émission, coup de projecteur justement sur l'arrivée des premiers colons en Guadeloupe. Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti. Monsieur Vissienon, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ici à Dortmund dans le cadre d'un festival sur la culture africaine. Et vous venez, au début de l'année, d'éditer un livre qui s'intitule « Mafia Africa », une histoire courte des colonies en Afrique, des colonies françaises, et le sens de la France-Afrique. Le tout, je précise, est en allemand, donc je viens de traduire. D'abord, pour vous situer, monsieur Vissienon, vous êtes originaire du Bénin, et vous vivez en Allemagne maintenant depuis plus de 40 ans, 42 si je ne me trompe. Et vous avez fait vos études ici dans l'Est de l'Allemagne. Vous vivez toujours à Leipzig et vous exercez en tant que vétérinaire.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a amené d'abord ici très succinctement en Allemagne pour ces études ?
C'est une opportunité qu'on a eue en tant que enfant d'une famille relativement pauvre. On n'a pas la possibilité d'étudier. Et en ce moment-là, il y avait ces pays de l'Est qui octroyaient des bourses. Et j'avais la chance d'avoir la bourse pour venir à Leipzig en 1980 pour faire la maîtrise vétérinaire, et je précise, pour repartir en 86 et aider mon pays à se développer. Mais malheureusement, je le dis malheureusement, la politique de la Banque mondiale et du FMI a fait que en avril 86, ces institutions ont interdit au Bénin d'embaucher des gens, de dégonfler ou de jeter les jeunes dans la rue. Et dès lors, je me suis dit, attends encore un peu. Et depuis plus de 30 ans, j'attends. Et j'ai maintenant un âge là où je me suis dit que vraiment... Est-ce que ça vous rappelle encore de bouger? Attendre d'abord la retraite pour pouvoir.
D'accord. Donc, en fait, c'est indépendamment de votre volonté que vous êtes resté ici, finalement. Ou même contre votre volonté.
Oui. Contre ma volonté, les mauvaises langues disent que c'est des raisons économiques. Mais bien sûr, au fait, ce qui importe, c'est de survivre. Et j'étais ici, je dois survivre. J'avais en ce moment un garçon... qu'il faut alimenter.
Parce que l'alternative, c'était quoi? C'était de retourner et de ne pas pouvoir travailler dans votre profession là-bas?
L'alternative, on était 18 en ce moment à venir.
À être boursier.
Et ceux qui n'avaient pas de possibilité d'attendre un an, deux ans, ainsi de suite, il y a beaucoup qui sont jusqu'ici chômeurs. Ils jonglent. Mais
d'accord, ils se débrouillent. En tout cas, bon, vous êtes resté, vous avez donc commencé à exercer, vous avez maintenant votre cabinet de vétérinaire à Leipzig avec votre clientèle, vous vous en sortez très bien. Maintenant, le volet de ce livre, parce qu'on s'étonne un peu, un vétérinaire qui exerce se met à écrire un livre sur la France-Afrique, qui est un sujet géopolitique qui existe depuis longtemps et sur lequel on peut beaucoup palabrer. Et c'est ce que vous avez fait dans ce livre, qui, je précise, a été aussi illustré. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée de sortir ce livre? Ou l'envie? Ou la nécessité?
C'est l'impatience. C'est l'impatience, c'est aussi... Le temps, c'est aussi mon âge, où depuis mon école primaire, je pensais que nous, on va changer. Si je suis grand, moi, je vais changer. Maintenant, j'ai maintenant plus de 60 ans et je vois que les choses s'aggravent. Et je me suis dit alors, fais quelque chose. Et je me suis mis à écrire le livre pour faire au moins un résumé, pour dégager un peu ma conscience.
Alors, dans le livre, vous racontez des histoires. Quelles sont ces histoires, succinctement?
Ces histoires, oui, on peut dire ces histoires, ou bien ces événements. Ces événements.
Oui, qui sont vraiment déroulés.
Vrais, qui sont vrais. Ce sont ces événements où l'Allemand normal n'est pas informé, ne sait rien de ça. Je me suis dit, alors, il faut faire quelque chose, il faut faire connaître le problème.
Par exemple?
Et c'est ça. Par exemple, pourquoi les pays francophones sont aussi pauvres que ça? Et mon frère, tous les pays francophones sont pauvres.
Les pays africains francophones.
Des africains francophones. Mais Haïti, l'Haïti n'est pas africain, mais Haïti est aussi le plus pauvre, ainsi de suite. Là. C'est tous les pays francophones qui sont pauvres.
Pour être précis, on va dire les pays qui ont été colonisés par la France. Parce qu'il y a des pays francophones comme une partie du Canada ou la Suisse.
D'accord.
C'est pour ça que je voulais qu'on soit bien précis. D'accord. Nous sommes d'accord.
Oh ouais. Les pays francophones en Afrique surtout. Ouais. D'accord. Et c'est ça qui m'a animé à écrire le livre, à faire une certaine synthèse de ça pour faire connaître les problèmes en Allemagne, à l'Allemand. Les Allemands disent des autobürger. Ça c'est en allemand. C'est l'allemand normal.
Le quidam.
Voilà, le quidam, d'accord. Ouais, c'est ça.
Alors, vous avez fait des recherches ou vous vous êtes intéressé au sujet? Vous avez mis combien de temps à réaliser cet ouvrage?
Ça m'a coûté 5 ans. De la rédaction jusqu'à l'apparition, ça m'a pris 5 ans. Surtout à cause des caricatures. Les caricatures sont très...
Parce que le livre est illustré par des caricatures.
Voilà, le livre est illustré par des caricatures. La rédaction, à peu près 2 ans. Et maintenant, les caricatures, ça a pris encore un an et demi, deux ans comme ça. Et maintenant, le faire sortir. Vous savez, on ne connaît personne ici. On n'a pas des oncles, des tantes qui peuvent me dire, va là-bas, va chez tel, je dois chercher le chemin moi-même. Et ça a pris du temps aussi.
Donc, trouver des contacts, etc., pour pouvoir réaliser le projet.
Voilà.
Et maintenant, avec ce livre, vous avez quelque chose en main pour pouvoir faire, j'allais dire, de la sensibilisation, et c'est-à-dire essayer de raconter aux Allemands qui vous entourent, ou alors, comme ici, dans le cadre de ce festival, vous êtes venu faire une lecture ici, un petit symposium avec des gens qui s'intéressent au sujet. Vous avez envie, j'allais dire, de prêcher pour qu'on sache de quoi il s'agit quand on parle de France-Afrique et de l'influence que peut avoir encore la France sur les pays francophones africains.
C'est mon but. C'est mon but. Et je fais tout pour que ce soit connu. Je fais des publicités par-ci, par-là, par exemple, dans Africa Positive, où je me suis dit, d'accord, ce journal-là, ils vont publier le livre jusqu'à la fin de l'année, si possible, au-delà de ça, pour que les gens sachent.
Africa Positive, qui est un magazine sur la culture africaine et la vie africaine qui est édité ici à Dortmund, en Allemagne.
Ouais, effectivement.
Donc votre but, en fait, c'est qu'un maximum de gens soient au courant de ce qui se passe.
Voilà.
Parce que vous espérez qu'un jour, ça en finisse. Est-ce que vous êtes confiant?
Si je ne suis pas confiant, je n'allais pas le faire. Je crois que ça viendra. C'est maintenant la vitesse.
Combien de temps ça va durer?
Voilà. Combien de temps ça va prendre? Je ne sais pas ça, mais les gens le sauront. Je ferai tout pour qu'ils savent.
Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Vicignon. Et vous allez retourner à la Psyche. On vous souhaite une bonne suite et une bonne prêche, j'allais dire.
Merci, Monsieur Durand, et à la prochaine.
Coup de projecteur.
Nous sommes le 28 juin 1635, il y a aujourd'hui 387 ans. À l'est des Caraïbes, un navire accoste à la pointe Allègre sur la côte nord de la Guadeloupe. À bord de l'embarcation se trouvent 150 Français d'une moyenne d'âge de 21 ans qui sont venus sous contrat pour travailler la terre. La Guadeloupe devient ce jour-là colonie française. Et très vite, on importe des esclaves, mais ce n'est que plus tard, vers 1670, que des esclaves noirs africains seront déportés en masse vers l'île pour servir notamment dans les plantations de canne à sucre, de tabac et de coton et faire la fortune des propriétaires terriens, des négriers et des commerçants de la métropole. La Guadeloupe avait d'abord été aux mains des Espagnols. D'ailleurs, Christophe Colomb, qui naviguait pour le compte de la couronne d'Espagne, avait en 1493 baptisé l'île Guadalupe, du nom d'un monastère royal. Mais plus intéressés par le soi-disant Eldorado en Amérique centrale et du Sud, les Ibériques délaissent les Antilles au profit d'autres nations colonialistes telles que la France, l'Angleterre et la Hollande. On se quitte en musique avec une collaboration entre le zouk antillais de Kassav et les rappeurs togolais de Toufan. Ça s'appelle Oulé. C'est la fin de ce numéro de Pulsation. Merci de l'avoir suivi. Le podcast est disponible sur dw.com/français. Bonne continuation en compagnie de la DW. Salut.
Viens, je te love. Cheveux bouclés laissés dans le vent. Douce parfum qui se repart.
Ça me rend toute mille. Je deviens toute mille.
Laisse-moi au moins t'approcher, oh, te toucher, oh, te sentir, oh, c'est ça mon projet, oh, un bisou, oh, câlin, oh, faut pas refuser, maman.